Ce matin, je vais parler de la victoire sur l'amertume. Et en fait, ces thèmes que Luc a pris sur victoire sûre concernent des histoires du cœur, des choses qui se passent à l'intérieur. Merci. Ben non. Je vais avec le clavier. Voilà. Dans Proverbes 4, 23, il est dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce que tu vis, la source de qui fait ta vie. » L'importance du cœur, de se voir qu'est-ce qui se passe au fond de nous. Est-ce que vous souffrez de l'amertume? Est-ce que vous savez ce que c'est l'amertume? Dans un article sur l'amertume que j'ai lu sur Internet, mais qui date de lundi, donc de cette, année, de cette semaine, hein, début de semaine, c'est le journal La Presse. D'après l'allemand Michael Linden, de 1 à 2 % des gens souffrent d'amertume chronique. Donc ce n'est pas seulement de l'amertume pendant un petit moment, mais qui perdure, qui s'est installée. Mais qu'est-ce que l'amertume? Je suis allée voir aussi sur, y a des fois des mots qui manquent. Hein. Donc j'étais regardée à la définition, et puis la première concerne les papilles gustatives, hein, ce qu'on mange et qui est très amer. Hein. Des fois c'est des endives ou alors des pamplemousses qui peuvent. L'amertume. La deuxième définition, c'est au sens figuré, sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Donc l'amertume est née et se développe à cause d'un sentiment d'injustice, de n'avoir pas été entendu, n'avoir pas été pris en considération. Il n'y a pas eu justice faite. Ça reste une histoire non réglée. Elle est donc une conséquence avec la rancœur du non-pardon. Face à une situation difficile, injuste, il y a toujours la colère qui vient en premier, l'indignation, le chagrin. Mais si le préjudice subi n'est pas, comme j'ai dit, entendu, reconnu, il va être ravalé. Cela va produire de l'amertume. C'est un fiel agissant comme un poison qui va attaquer la santé de la personne si elle ne fait rien. On va le voir plus loin. J'ai été regarder les synonymes. Alors, il y a toute une kyrielle de mots. Je vais en citer quelques-uns. Acariâtreté, acidité, écœurement, affliction, agressivité, aigreur, animosité, âpreté, bouderie, chagrin, déception, découragement, dégoût, dépit, déplaisir, désappointement, désespérance, désolation, douleur, dureté, humilité, ironie, méchanceté, mal, mélancolie, maussaderie, morosité, rancœur, regret, rudesse, souffrance, tourment. Waouh ! Ça donne un panorama de ce que l'amertume englobe. Ensuite, je suis allée voir les antonymes, c'est-à-dire le contraire des synonymes. Ça dit amitié, bienveillance, consolation, douceur, joie, obligeance, plaisir, satisfaction. Ça vous rappelle rien, ça? Le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Et cela nous est décrit dans l'Épître aux Galates. Dans la Bible, il y a eu plusieurs personnes qui ont été dans l'amertume. Une première personne que j'aimerais prendre, c'est Naomi. Mariée à Élimélec, ils ont quitté Bethléem de Juda parce qu'il y avait une famine et sont allés habiter à Moab. Ils ont eu deux fils. Et puis Naomi a perdu son mari. Mais elle avait encore ses deux fils qui se sont mariés. Mais par la suite, elle perd aussi ses deux fils. Donc elle est veuve. Il lui reste 2 belles filles. Ensuite, elle libère les belles filles en disant, mais vous êtes jeunes, rentrez chez vous, retrouvez un mari, fondez une famille. Parce que moi, je suis là et je ne peux rien. Les deux disent, non, on va rester. Et finalement, comme elle insiste, Oprah, l'une des belles filles, retourne chez ses parents. Mais nous savons que Ruth lui dit non, moi je resterai. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et ces deux femmes retournent à Jérusalem. Et quand les femmes reconnaissent Naomi, disent, ah, mais c'est pas Naomi, elle est revenue au pays. Voilà ce qu'elle leur dit. Ne m'appelez pas Naomi, qui veut dire beauté, douceur. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? Qu'apprenons-nous dans ce passage? L'amertume peut nous fermer à la présence de Dieu, à sa bonté, à son amour. Naomi a balayé d'un revers de main son histoire de vie et va jusqu'à vouloir changer son nom. C'est comme si elle était restée bloquée dans un deuil infini. Elle ne voit pas ce qu'elle n'a plus. Elle ne voit que ce qu'elle n'a plus. Au lieu d'être reconnaissante de tout ce qu'elle a pu vivre jusque-là avec Dieu. Elle accuse Dieu d'être l'auteur de l'amertume qu'elle vit. Oui, lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, il y a le danger de douter de la bonté de Dieu et de lui, et nous lui mettons sur le dos nos misères. Nous restons alors bloqués dans un deuil, une affliction qui s'éternise. Lorsque nous nous fermons à Dieu, nous devenons vulnérables, car nous ouvrons une porte à l'ennemi de nos âmes, à celui qui vient pour égorger, dérober, détruire. Oh, il est important que nous comprenions qu'il existe des lois spirituelles. Dieu n'explique pas tout dans sa parole. Il dit des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Mais il n'explique pas pourquoi. Mais on va le voir après, il y a des choses que la neuroscience maintenant nous permet de comprendre. Ce qui est beau, c'est que Dieu n'en veut pas à Naomi. Au travers de Ruth, Naomi sera réhabilitée dans sa vieillesse. Elle va pouvoir dire... Non, il n'y est pas. Elle a été oubliée. Elle dit... Non, c'est les femmes qui disent à Naomi, « Sois béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat, le droit de rachat pour Ruth, qui a pu se marier avec Boaz, un homme qui était un parent éloigné et qui avait une certaine fortune. » Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, qui était le père de David. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu rachète nos histoires. Quand on laisse Dieu venir, et au travers de Ruth, Dieu a pu venir dans la situation. Une autre personne qui a vécu des injustices, l'adversité, comme nul autre, Job. Mais son amertume l'a poussé à confronter Dieu. Voilà ce qu'il dit. « C'est pourquoi je ne me retiendrai pas, je parlerai dans la détresse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » Ça, c'est le second 21, mais la Bible du Semeur dit « C'est pourquoi je ne veux pas réfréner ma langue, je parlerai dans ma détresse, je me lamenterai car mon cœur est amer. » Ici, nous apprenons que l'amertume est une sonnette d'alarme. Et lorsqu'elle est là, il est important de parler, de dire, de mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre. De mettre à la lumière au lieu de ravaler. Une autre personne, Anna, la maman de Samuel. Si vous vous souvenez, Anna était stérile. elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a répandu son âme devant Dieu un jour en allant au temple. Et voilà ce qu'elle a dit. Ah ben là, il est là. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à garder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Merci. Ça ne vous rappelle pas une autre prière, celle de Jabez ? Si, 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 alors. Mais Élie, lui, le prêtre, en la voyant par terre et puis dans toute défaite et murmurant, il pense qu'elle est saoule. Donc il lui va vers elle et lui dit, mais va cuver ton vin ailleurs. Et voilà ce qu'elle va lui répondre. Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. J'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle reprit la parole et dit. Élie reprit la parole et dit, pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Elle a été entendue. Dans cet exemple, on voit que Anna, qui a répondu son cœur, elle a eu un témoin qui a validé sa situation. Il n'a pas dit, mais arrête, c'est n'importe quoi. Et puis, il y a des gens qui sont stériles, fait comme ça. Non, il a entendu, il valide. Il n'a pas cherché à minimiser ou à la faire taire. Son amertume liée à l'injustice, le fait qu'elle était stérile, et ensuite, elle a été accusée d'être une ivrogne, hein. Ne l'a pas fait s'arrêter. Elle a persévéré. Elle s'est battue pour elle-même. Ça lui a donné de l'énergie. Cette amertume lui a donné l'énergie pour se défendre et dire non, non, c'est pas ça. C'est pas de ça dont il s'agit. Encore une autre personne, David. Un épisode où David a été se battre avec ses acolytes contre des ennemis, et donc il n'est pas encore reconnu comme roi, il est en fuite par rapport à Saül. Et puis quand ils reviennent dans leur cité, c'est pour découvrir que d'autres ennemis étaient venus, avaient saccagé leur ville et avaient emmené femmes et enfants. Et il est dit que tous ces hommes, ces guerriers-là, hein, qui faisaient la guerre, ils ont pleuré tout leur saoul jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Et ensuite, David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Lui aussi était dans l'amertume. Lui aussi, je ne comprends pas, Seigneur, on a été se battre contre les ennemis, tu étais avec nous. Et pourquoi alors qu'on fait les choses que tu demandes, toi, tu n'as pas gardé nos familles. Il était aussi dans l'amertume. Mais il est dit mais. Mais il s'est ressaisi. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et on va le voir l'importance de, quand on est dans des situations difficiles, de tourner notre regard vers Dieu. Nous voyons ici qu'une grande tristesse mêlée d'amertume peut pousser à vouloir se faire justice. Les hommes de David étaient sur le point de lapider David. Mais là, nous avons une clé dans l'attitude de David. Au lieu de céder à l'amertume, il s'appuie sur Dieu. Encore une autre personne, l'exemple de Joseph, qui a vécu une kyrielle d'injustice. Vous savez, il a été jeté dans un puits par ses frères qui voulaient l'éliminer. Ensuite, ils ont vu passer une caravane, ils ont vendu leur frère aux gens qui passaient. Il a été vendu comme esclave, pris chez Potiphar, et comme il était un homme qui était digne, c'est un homme intègre, un homme qui était dans la vérité, qui marchait avec Dieu. Potiphar l'a mis pour gérer tous ses biens. Et puis on sait que la femme de Potiphar, elle voulait coucher avec un beau jeune homme, hein, plein de sagesse, waouh. Et puis il a résisté. Je ne peux pas faire ça à mon maître. Donc elle s'est fâchée et l'a accusé en disant, il a voulu coucher avec moi. Donc rebelote, il est arrêté, mis en prison. En prison, il y a deux hommes, un panetier, un échanson, qui ont des rêves. Et David va pouvoir expliquer les rêves. Et il dit à l'échanson, quand tu seras libéré et que tu iras vers Pharaon, ne m'oublie pas, va lui dire que je suis enfermé pour une injustice. Mais on sait que l'échanson, il a complètement zappé David de sa vie. Jusqu'au jour où Pharaon a un rêve. Et personne n'arrive à l'expliquer. Et tout à coup, les chansons, « Ah, mais je connais quelqu'un !» Mais il est en fait en prison. Donc on fait sortir Joseph et il raconte le rêve à Pharaon par rapport à cette année de bien, d'abondance et cette année de famine. Et Pharaon va le mettre à la tête pour gérer tous ses biens. Et ça va permettre par la suite à Joseph de sauver son peuple, de sauver ses frères et son père qu'il ramène au pays, en Égypte. À un moment donné, quand le père décède, Jacob décède, les frères, ils ont la trouille parce qu'ils se disent, maintenant, il va se venger contre nous. Maintenant que notre père est mort, il va nous tuer. Mais voilà ce que Joseph leur dit. N'ayez pas peur. Suis-je en effet la place de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur, car je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Mais si on se souvient bien, Joseph avait eu un songe. Et il avait eu dans ce songe le fait qu'un jour, son père et ses frères se prosterneront devant lui. Et je crois que cette parole de Dieu, il l'a gardée. Il l'a méditée tout au long de ses années d'adversité. Il a gardé cette relation avec Dieu. Et parce qu'il était en lien avec Dieu, il a réussi à ne pas rester à ne pas laisser l'amertume le rendre esclave. Il a su faire que les projets de Dieu s'accomplissent. Voici un psaume qui vient renforcer et le témoignage de David et le témoignage de Joseph. Un psaume extraordinaire. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est la vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Oui, on a le choix de se laisser envahir en se disant « moi et je » et « c'est pas juste » et se laisser enfermer dans l'amertume ou alors faire le choix de dire « non, je veux chercher ma force en Dieu ». Et là, il y a une promesse extraordinaire. Si on s'attend à Dieu dans l'adversité, qu'on traverse notre vallée de larmes, il est dit que nous la transformons en source d'eau. Nos histoires deviennent des sources de vie pour d'autres. Parce qu'il ne faut pas croire que ce qu'on vit, on est tout seul à le vivre. Bien souvent, quand on parle et on témoigne, on dit « mais c'est mon histoire que tu racontes, c'est de moi dont il s'agit ». Toutes ces choses-là qu'on vient de voir sont dans l'Ancien Testament. Regardons dans le Nouveau Testament ce qu'il est dit sur l'amertume. Dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent au milieu de vous. » Nous sommes appelés à nettoyer nos cœurs, nos relations mutuelles de l'amertume, afin de l'éliminer avec les autres sentiments qui y sont associés. Retenons que ces sentiments attristent le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi donc ? Parce qu'ils sont des obstacles qui empêchent notre cœur de recevoir l'amour de Dieu et qui rendent la parole de Dieu inefficace. On l'entend, on dit « oui, je sais, mais ». Il y a des « mais » qui viennent s'interposer. L'esprit de vérité se heurte aux sentiments et pensées nourris par l'amertume. Cela peut devenir des forteresses qui se tiennent entre nous et Dieu. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 10. Mais il nous dit que nous avons les armes spirituelles puissantes pour venir à bout de ces forteresses. Dans Hébreux 12, il est dit « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Ah ah, l'amertume empoisonne. Je ne sais pas si vous avez un jardin, vous avez eu un jardin, ou si vous aviez des fois ramassé de la mauvaise herbe. Régulièrement, je vais dans mes deux plates-bandes de fleurs pour enlever la mauvaise herbe. Et chaque fois, c'est une méditation entre moi et Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait ? Et chaque fois, je suis là à me dire, quand j'enlève une mauvaise herbe, tu n'as pas à être ici, tu n'as rien à faire là. Parce que souvent, ils se mettent là-haut, au pied des rosiers en plus. Hein, les liserons et au pied, ils grimpent. Alors je suis là et vraiment, il y a une attitude d'indignation. La sainte colère, c'est une sainte indignation. Tu n'as rien à faire. Et j'ai un instrument pour aller chercher au fond. Parce que si on ne fait qu'enlever la surface, la racine, elle reste et ça revient. Donc c'est l'histoire d'aller jusqu'au fond prendre la racine. Des fois, il y a des mauvaises herbes. Elles ont des racines énormes. Hein. Le machin, il est grand comme ça. Mais une fois qu'on retire, il y a une racine qui est longue. La racine d'amertume. Et qui cause du poison. Les neurosciences découvrent des vérités qui sont finalement dans la Bible depuis toujours. C'est Dieu qui est le créateur, c'est Dieu qui sait comment on fonctionne. Mais maintenant, les neurosciences permettent de réaliser que la parole a tout son sens, la Bible. Le professeur de psychologie Carson Vroch, qui s'intéresse aux émotions négatives dans le cadre de ses recherches à l'université Concordia, aux États-Unis, soutient que l'amertume chronique a un effet sur le métabolisme et le système immunitaire. Comme les autres émotions négatives, dont la colère et l'hostilité qu'elle accompagne, on peut présumer qu'elle augmente le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, explique le professeur. Donc si l'amertume devient chronique, cela peut causer des dérèglements biologiques et nous rendre vulnérables aux maladies. L'excès de cortisol est très souvent associé aux maladies cardiaques, à l'hypertension artérielle, à l'insomnie et au dysfonctionnement du système immunitaire. Aussi, la perte de concentration, de mémoire et les difficultés de concentration. Donc, c'est tiré d'un article écrit par Marine Bertrand. Donc, cela se passe-t-il ? Comment l'amertume peut comme ça atteindre le corps ? Parce que le cerveau émet en moyenne 50 000 pensées par jour. Chez la majorité des gens, jusqu'à 70% de celles-ci sont négatives. C'est ce qu'on appelle la rumination. On revient dessus, on rumine. C'est dégueulasse, c'est pas juste. Pourquoi c'est moi ? Puis pourquoi ils s'en sortent ? C'est dégueulasse. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Les effets néfastes du stress ne sont pas tant dus aux événements qui se déroulent dans notre vie qu'à nos pensées, les réactions négatives automatiques et les biais cognitifs. Intéressant, hein ? Oui, le stress permanent traduit un organisme dans le non-repos. Donc c'est le contraire de la paix et de la détente en Dieu. Donc que faire pour se débarrasser de l'amertume ? C'est bien beau de savoir tout ça. Et alors ? Comment avoir la victoire sur un cœur amer, enfermé dans la récrimination ? Que faire pour triompher de ce mal intérieur ? L'apôtre Paul nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas à savoir ce qu'il a mangé à boire, comment faire ses règles et ses lois, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dieu désire venir faire justice dans nos vies, nous rendre paix et joie, mais à sa manière, hein, pas la nôtre. C'est donc décider avant tout de travailler avec le Saint-Esprit sur les points qui nous concernent, pas par nos propres forces, mais dire « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ». Comme le roi David, le psaume 139 est un psaume extraordinaire. Il dit de super choses. Il parle de, que Dieu le connaît, qu'il a été créé par Dieu, qu'il est une créature merveilleuse et tout. Et tout à coup, pap, en plein milieu de ce bouquet de belles choses, de gloire à Dieu, « Je hais les gens qui te haient, je veux les trucider !» Il y a tout un passage où il parle de cette... Il y a une haine qui s'exprime. J'avais oublié. Et puis, c'est pour ça qu'il termine son psaume en disant... Ah, il y a des choses. « Sonde-moi, ô Dieu, et pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours, ou la voie de l'éternité. » Et c'est ça, quand on réalise qu'il y a quelque chose au haut qui n'est pas OK, une racine d'amertume. Oh, Seigneur, sonde-moi. Sonde mon cœur. Et amène-moi sur la voie de la vie, la voie de l'éternité. Je ne veux pas rester là-dedans. Donc, c'est marcher dans la vérité, ne pas se priver de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'antidote à l'accusation et à la condamnation. La grâce de Dieu. Ne pas se priver de la grâce. Un deuxième point, vivre la dimension du corps de Christ. Résister à l'appel du désengagement, du retrait, du silence. Quand ça ne va pas, souvent, on se referme sur soi et on se retire. On ne veut pas parler aux autres. Tous les enfants de Dieu font partie de sa famille. Hein? Une autre image, c'est le corps de Christ. Et Luc l'a dit ce matin, on fait partie du corps. Et si un membre souffre, le corps entier souffre. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité spirituelle. Donc si je reste avec ma propre souffrance, le corps va souffrir. J'ai une responsabilité. Et il est bon de pouvoir aller vers l'autre. Sinon, j'ampute le corps d'une partie de lui-même. Et le corps sera affaibli. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir... c'est de pouvoir confesser à quelqu'un. Pas rester tout seul, mais aller vers quelqu'un et dire, voilà ce que je vis, voilà ce qu'il y a dans mon cœur, voilà ce que je ressens, voilà ce que je pense. Jacques 3 nous dit, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine et démoniaque. Parlez, dire, comme Anna, comme Job, je vais parler à Dieu ou bien je vais parler à quelqu'un. Il faut que je dise, mais je ne garde pas pour moi-même. Priez ensemble ensuite. C'est important d'être pas seul pour prier. Priez, car en cas de doute, nous avons un témoin qui a entendu nos prières. Des fois, l'ennemi il vient et dit, tu crois que tu as demandé pardon, mais ce n'est pas vrai. Tu crois que ta prière est entendue. Et là, on peut dire, si, j'ai eu un témoin. Il y a des gens qui ont entendu. On peut répandre son cœur devant Dieu. Comme les psaumes de complainte. Combien de psaumes dans la Bible où on voit le psalmiste qui répand son cœur, qui dit c'est dégueulasse, c'est pas juste, voilà ce qui se passe. Mais ça finit toujours bien parce qu'il y a un apaisement. Quand on répand son cœur devant Dieu, ensuite Dieu vient, Dieu console, Dieu parle, Dieu ouvre un chemin. Il y a aussi confesser l'amertume, y renoncer, demander pardon. Parce qu'il est dit, nous avons attristé l'esprit. Et en faisant ça aussi, nous ouvrons une porte à l'ennemi. Chaque fois que nous vivons quelque chose qui n'est pas dans l'alignement de ce que Dieu demande, c'est une porte que nous ouvrons. Et l'ennemi, eh ben, il n'est pas gentleman, lui. Lui va venir, c'est un voleur. Il ne supporte pas ce que Dieu fait de beau et de bon. Lui, il veut détruire. Et c'est pourquoi ne faisons pas l'œuvre du diable. Ne laissons pas cette porte ouverte. Dans Hébreux 3:12, faites attention, frères, sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Parce que quand on ouvre la porte, l'ennemi vient et il nous détourne de Dieu. Et après, on est séparés de Dieu. Il est dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Dieu ne se sépare pas de nous. L'amour de Dieu ne change pas. Qu'on le boude, qu'on l'accuse, Dieu nous aime 100%. Son amour est éternel, il ne changera pas. Ensuite, on peut demander à Dieu de guérir la plaie de l'amertume et les conséquences, de venir et de rattraper les conséquences dans nos vies. Donc, on peut travailler sur le pardon ensuite à accorder. Car l'amertume est un rejeton du non-pardon. On en veut à quelqu'un, ou on en veut à un groupe, ou on en veut à une institution. Ou alors on a pardonné avec la tête, on n'a pas pardonné avec le cœur. Et dans Matthieu 18, il est dit, dans la parabole du roi qui a pardonné, qui a remis une dette énorme à un serviteur qui lui a pas remis une dette minimum à un autre de ses congénères, Jésus dit à la fin, parce que le roi après va punir celui qui n'a pas pardonné, dit, voilà ce que mon Père vous fera si vous ne pardonnez pas du fond de votre cœur. Et parfois on pardonne avec la tête, mais on sait beaucoup. Mais Dieu veut que ce pardon, il nous rejoigne là, et que ça soit du cœur, pour qu'on soit libre. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et puis il continue le texte en disant « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » C'est toute une histoire le pardon, toute une histoire. Mais on est appelé à y arriver, pas par nos propres forces. Parfois on peut dire « Seigneur, je veux mais j'y arrive pas. » Je veux pardonner parce que tu le demandes, mais je n'y arrive pas. J'ai même une fois une personne, parce que je fais des accompagnements, qui est venue et il m'a dit à la première rencontre, « Ne me demandez pas de pardonner. Je ne veux pas et je ne peux pas. » Et j'ai souri, j'ai dit, « Seigneur, quelque part le pardon est dans son paysage. Il est peut-être très loin, elle l'a peut-être mis, mais il est là puisqu'elle en parle. Et un jour avec toi, si tu marches dans sa vie, elle va y venir. » Dieu va l'y amener. Donc soyons sages de la manière comment nous amenons les choses aux personnes qui sont blessées. Il y a un processus. Et comme j'ai vu, il y a des choses à vivre avant, dire, et que quelqu'un entende et reconnaisse, valide ce qui s'est passé avant d'arriver à l'histoire du pardon. Et on peut aller encore plus loin, parce qu'on est enfant de Dieu. Et dans Éphésiens 5, il est dit « Imitez votre Père ». Et l'exemple qui nous est montré, c'est Jésus qui a aimé. Imiter. Donc une fois qu'on peut pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, on peut demander de l'amour pour ces personnes. Ça allait encore plus loin, un stade de plus, pour être comme Jésus. Donc pour la personne ou le groupe de personnes ou l'institution. Oui, le salut est gratuit, mais il n'est pas bon marché. Il coûte. Est-ce que je suis prêt à aller jusque-là? Ça demande un dépouillement, mes amis. J'en sais quelque chose. Mais après, waouh, les récompenses, elles viennent. Et ensuite, si on le sent, aller parler à la personne qui a créé en nous cette amertume. Une fois que notre cœur est apaisé et que nous sommes sur le chemin de la restauration, Matthieu 28 nous dit, après avoir guéri, si quelqu'un a fait quelque chose contre toi, va le retrouver. S'il t'écoute, tu vas gagner un frère. L'histoire de cette démarche, c'est pour retrouver un frère. Il y a encore un point, choisir de méditer et proclamer la parole. Comme Jérémie, qui a été abreuvé de souffrance de la part de ses congénères. Et voilà ce qu'il a dit. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je déclare, l'Éternel est mon bien et c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. N'est-ce pas extraordinaire? Et on a toujours le choix. On a toujours devant nous une possibilité. Ou non, ou oui, aux offres de Dieu. Et comme j'ai dit ici, on n'y arrive pas. On peut dire, Seigneur, je veux, mais je n'y arrive pas. Aide-moi. Donc, au lieu que nos oreilles entendent des récriminations, des choses négatives, des paroles négatives pleines de fiel, proclamez les paroles de la vie. Les paroles de la vie. Comme les disciples ont dit, Seigneur, à qui irions-nous d'autre? C'est toi qui as les paroles de la vie. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et c'est cela, mes amis, combattre le bon combat de la foi. C'est décider, Seigneur, je prends ce que toi tu dis. Et puis je saisis ta parole. Et je la proclame. Et je dis, oui, tu dis dans ta parole ça, et je le proclame. Être dans la reconnaissance, c'est le dernier point. Louer Dieu, le remercier pour tout ce que nous avons. Ne pas penser à ce que tout ce qu'on a, c'est dû. Parce que le lendemain, ça peut nous être enlevé. Il y a ce livre magnifique, Les 1000 cadeaux, de Anne Voskamp. Je ne sais pas si vous avez lu. C'est extraordinaire. Elle a commencé à dire, je veux apprendre à être reconnaissante à Dieu. Avoir des yeux pour voir Dieu dans les petites choses du quotidien. Et a commencé à rendre 1000 cadeaux à Dieu. Parce que quand on est dans la reconnaissance, on fait des cadeaux à Dieu. Donc comme je dis, on ne peut pas faire ça par nos propres forces. Donc on n'a pas à se recroqueviller sur soi-même, se retirer loin des autres et de Dieu. Parce que là, on devient une cible pour l'ennemi. Car lui cherche à nous diviser et à nous isoler pour mieux nous achever. Comme Jérémie, David, Daniel, Joseph avant nous, se tourner vers l'Éternel. Lever la tête et porter nos regards, notre attention sur Dieu. Car dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qu'on cherchait. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc ce n'est pas pauvre de moi, mais c'est je lève les yeux, je regarde à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, ce n'est pas sur Dieu qu'on lève les yeux, c'est sur Jésus. Parce qu'on a Jésus depuis le Nouveau Testament. Il est celui qui produit la foi et l'amène à la perfection. Et l'apôtre Le Bon dit, quand on court la course, courons là, dans l'adversité, courons les yeux fixés sur Jésus. Oui, mes frères et sœurs, nous avons Jésus. C'est-à-dire plus que ce que les hommes et les femmes avaient dans l'Ancien Testament. Et c'est vrai, le chemin sur lequel nous marchons, il est étroit. Mais lorsque nous sommes d'accord d'y marcher, Dieu sera avec nous à chaque étape. Et nous avons l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité, afin que nous entrions tous et toutes dans la liberté des enfants de Dieu. Libres car nous aurons vaincu le mal, le malin, nous aurons anéanti son œuvre en nous. Amen. Maintenant, j'aimerais faire un appel. Si vous avez été touché, si quelque chose oublié tout à coup est revenu à la pensée, une histoire non réglée qui date, ou bien peut-être qui est récente, si vous avez de l'amertume en vous, qui peut se décliner en tout ce mode dont je vous ai dit au début, tous ces différents aspects, si vous avez un grief contre quelqu'un et n'arrivez pas à pardonner, alors je vous propose de le marquer en vous levant, en disant, Seigneur, oui, ça demande du courage. Vous savez, au début, moi, j'étais contre ces histoires de se lever ou de venir devant. Ben, je me disais, pourquoi? Mais je me rends compte que c'est un signe avant tout pour Dieu. C'est faire violence à soi-même. Et se dire, stop, non, je veux signifier quelque chose. Je veux dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux que ça change. Et je vous propose de vous lever et je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu d'amour. L'amour croit tout, espère tout, l'amour est plein de patience. Et ce matin, tu es là pour nous inviter. Tu nous tends la main et tu dis, viens. Viens, ouvre ton cœur. Donne-moi tes griefs. Donne-moi ta souffrance. Donne-moi ces choses non réglées. Ne les laisse pas. Oui, que tu viennes avec ta lumière, ta grâce, ta paix. Visiter toutes ces personnes qui ont manifesté un désir de changement, qui ne veulent plus rester dans l'amertume, avec tous ses dérivés. Je te demande de venir guérir les corps atteints par l'amertume, toutes les conséquences dans les corps des personnes. Que tu visites le système immunitaire, le système respiratoire, le système nerveux, le système sanguin. Seigneur, lève-toi et viens. Viens faire justice dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui a payé de sa vie afin que nous puissions vivre, guérir et marcher librement devant ta face, les uns avec les autres. Amen.